Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois. Bonsoir Olivier, place à l'info.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. À la une, les JO de Tokyo et cette médaille d'argent en judo au goût un peu amer. La Française Sarah Léonie Cizik a perdu en finale des moins de 57 kilos. L'or était à portée de main, mais elle a été disqualifiée pour un geste qu'elle a fait, jugé dangereux pour elle-même. C'est la première fois que cette règle est utilisée en finale. On va l'entendre dans un instant et on verra ce qu'on lui reproche précisément. Et puis on fera évidemment dans la foulée un bilan du jour pour nos bleus. Sur le front du Covid, on a dépassé les 40 millions de primo-vaccinés en France. Est-ce que cette accélération de la campagne permettra d'éviter une vague dans les hôpitaux? Le gouvernement veut y croire. Pascal Autier, épidémiologiste à l'APHM de Marseille, lui, est très pessimiste vu ce qui se passe actuellement dans les Bouches-du-Rhône. Il sera l'invité d'RTL Soir tout à l'heure à 18h15. La Haute-Corse, elle, serre la vis. L'épidémie s'y propage 4 fois plus vite qu'ailleurs en France et donc désormais pour tout mariage avec plus de 50 invités par exemple, il faudra un référent passe sanitaire déclaré, chargé de vérifier pendant la cérémonie les QR codes. Dans ce contexte assez sombre, faut-il y voir une petite lueur? Restons prudents. Mais au Royaume-Uni, les cas sont en baisse depuis 5 jours. Le système hospitalier tient le coup. On appellera Marie Billon à Londres pour comprendre. Et puis en Tunisie, c'est une crise politique qui vient s'ajouter à la crise sanitaire qui frappe le pays. Le Parlement est bouclé par les militaires. Le président Kais Saied s'octroie tous les pouvoirs. Les opposants d'Ennahdha notamment dénoncent un coup d'État et il y a eu aujourd'hui des affrontements. La météo, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors il ne va pas faire très beau demain, figurez-vous.
Exactement, puisqu'une nouvelle perturbation va onduler toute la journée des Pays de la Loire aux frontières du Benelux, donc ça sera bien couvert avec quelques averses qui pourront avoir une tournure orageuse dans l'après-midi, surtout vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, eh bien, les éclaircies seront davantage présentes, surtout en Méditerranée où le soleil battra son plein. Et côté température, il faudra compter entre 13 et 16 degrés dans l'ensemble en matinée et dans l'après-midi entre 18 et 24 degrés du nord au sud-ouest.
Merci beaucoup Claire Delorme.
RTL Soir. RTL à Tokyo.
Partons donc effectivement à Tokyo pour les JO. La journée a été mitigée, disons, pour les Français, puisque même quand on a décroché une médaille, la joie a été un peu gâchée. Exemple avec Sarah Léonie Cizik en judo, je vous le disais en titre. Elle a perdu en finale les moins de 57 kilos. La médaille d'argent est donc là. Mais c'est un fait inédit. En finale, elle a été disqualifiée aujourd'hui. L'arbitre a estimé qu'elle avait fait un geste dangereux pour elle-même. Elle a trouvé ça injuste. On l'écoute.
C'est vrai que j'ai ressenti de la frustration parce que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et du coup, oui, j'ai trouvé ça très injuste de la part des arbitres de me faire payer une erreur qui n'était pas mienne. La règle, en fait, elle est faite. Quand on prend l'initiative de planter la tête pour essayer de faire tomber quelqu'un, on est sanctionné. Mais c'était pas du tout mon volontaire. J'étais triste parce que j'avais perdu et de cette manière. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis montée sur le podium et qu'on m'a remis ma médaille, que j'ai vu les gens sourire, là, tout de suite, vraiment, ma tristesse s'est un peu envolée et la joie m'a submergée.
Bon, voilà la joie contenue hein, de la judoka Sarah Léonie Cizik et cette médaille d'argent. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Qu'est-ce qu'on lui a reproché exactement donc, à cette judoka française?
Eh bien, Sarah Léonie Cizik a pris appui sur sa tête au moment de porter une action à la kosovarde Djakova. On a vu sa nuque se plier un peu à 90 degrés. Oui. À 90 degrés, ça fait un peu peur. Carton rouge, le résultat. C'est cruel, mais ce point de règlement est là pour protéger les athlètes. La native de Sarcelles est disqualifiée pour avoir mis en danger son intégrité physique. Même si la judoka le conteste, les images portent à interprétation et son entraîneur parle d'une décision juste. D'ailleurs, Sarah Léonie Cizik semblait groggy en se relevant. Jamais une finale olympique ne s'est terminée sur ce point de règlement. Dommage car elle dominait son adversaire.
Et alors, il y a eu une autre médaille aujourd'hui quand même pour la France.
Oui, elle est en bronze, cette médaille pour Manon Brunet en sabre. Une forme de revanche pour l'escrimeuse de 25 ans au pied du podium il y a 5 ans à Rio. Cette étiquette de quatrième qui lui collait à la peau, disait-elle. Deuxième breloque pour l'escrime après le sacre de Romain Canon hier.
Alors on entendra tous ces champions de 18h30 à 19h. Hein. On refait les jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Et puis l'image du jour, Quentin, c'est cette chute impressionnante de Mathieu Van Der Poel en VTT ce matin.
Un soleil pour le récent maillot jaune du Tour de France qui a fini par abandonner. Vous savez, le soleil, c'est quand on passe par-dessus le guidon. Voilà, donc chute spectaculaire en sautant d'un rocher pour le petit-fils de Raymond Poulidor. Évidemment, son excuse, une planche se trouvait sur la trajectoire pendant sa reconnaissance, une planche qui avait disparu pendant l'épreuve. C'est finalement le Britannique Tom Pitcock Pitcock qui a remporté l'or.
Merci beaucoup Quentin Vasselin. Et puis on rappelle aussi les victoires 3-7-0 d'abord des Bleus en volley contre la Tunisie et en handball, Nicolas Karabatic et ses coéquipiers se sont imposés 34-29 contre le Brésil.
RTL Soir, Olivier Bois.
On en vient à l'actualité sanitaire et le chiffre du jour. Plus de 40 millions de Français désormais ont reçu au moins une première injection de vaccin. On approche des 60% de la population. Le gouvernement continue d'espérer que l'accélération de cette campagne nous protège in fine d'une trop forte vague dans les hôpitaux. En attendant, localement, des mesures sont prises pour gérer l'urgence. En Haute-Corse, par exemple, l'épidémie se propage 4 fois plus vite. Résultat, le préfet a décidé de durcir les règles. D'abord, les rassemblements en extérieur à plus de 10 sont interdits désormais, par exemple, sur la plage. Et puis, Julien Fautra, bonsoir.
Bonsoir.
Les mariages également sont plus encadrés désormais.
Oui, mariage, anniversaire, tous les événements festifs de ce type dans des établissements recevant du public devront être déclarés en préfecture et ce, à partir du 1er août des dimanches. Deux précisions. Un, cela concerne tous les mariages ou anniversaires qui prévoient plus de 50 personnes. Ça fait un bel anniversaire. Deux, il faudra aussi, pour chacune de ces réceptions, un référent, passe sanitaire, donner le nom de celui qui sera chargé de vérifier que chacun a soit un schéma vaccinal complet, soit un test négatif. Pourquoi la préfecture cible ces événements? Parce que les premiers clusters se sont créés à cette occasion et que la Corse ne pourra pas se permettre une flambée de l'épidémie. Le système hospitalier de Lille est déjà sous tension l'été, période pendant laquelle la population de Lille est multipliée par 3 ou 4. Par ailleurs, en Haute-Corse est donc annoncée par la préfecture une interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur les plages et les espaces naturels après 21h, tout cela étendu à l'ensemble du département qui est aujourd'hui le deuxième le plus touché de France par le Covid.
Merci beaucoup Julien Fautra. La loi rassemblant les mesures anti-Covid, elle a été adoptée aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel donnera son avis le 5 août. Après cela, en cas d'avis positif, évidemment, eh bien, le pass sanitaire sera obligatoire dans les bars, restaurants, y compris en terrasse. Là-dessus, le gouvernement n'a pas lâché. Et il sera obligatoire également, ce pass dans les EHPAD pour les visiteurs. Décision qu'a du mal à comprendre Romain Gisolme, directeur de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Nous voyons bien qu'aujourd'hui, ces concitoyens âgés, fragiles, se voient imposer que leur famille dispose d'un pass sanitaire pour pouvoir les rencontrer, alors que tout autre Français, aujourd'hui, peut voir ses proches sans avoir à présenter de pass sanitaire à qui que ce soit. Et puis, deuxième élément, il faudra que l'État prévoie les moyens pour permettre aux professionnels de mettre en place cette mesure de façon la plus acceptable. Par exemple, nous pourrions imaginer que le pass soit nécessaire pour des visiteurs s'ils souhaitaient manger au sein du restaurant d'une résidence avec leur famille, mais que dès lors que les visiteurs ne voudraient aller voir leurs proches que dans leur logement, alors peut-être là ne serait-il pas imposé. Ça fait partie des éléments que nous allons discuter avec l'État quant à l'application prochaine du texte.
Des propos recueillis par Odile Pouget. Pour ce qui est du pass dans les centres commerciaux, ce sont les préfets qui trancheront en fonction des situations locales. Et puis le gouvernement a lâché du lest sur l'obligation vaccinale pour les personnels dans les établissements médicaux ou d'ailleurs dans les bars-restaurants. Le licenciement ne sera pas automatique en cas de refus. Il pourra y avoir des négociations pour les récalcitrants, par exemple sur la prise de congés sans solde ou sur des réaffectations éventuel. L'invité d'RTL Soir, je vous le disais dans quelques minutes, sera le professeur Pascal Autier, qui ne va pas vraiment nous rassurer. Il est épidémiologiste à la PHM de Marseille et il affirme que, chez lui, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, je le cite, l'hôpital sera plombé avant la fin du mois d'août. Mais on l'interrogera quand même sur ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. La vague Delta, ils la subissent depuis des semaines maintenant. On est monté parfois jusqu'à 50 000 cas par jour au Royaume-Uni. Et pourtant, les hôpitaux tiennent et le nombre de cas baisse même depuis quelques jours, Marie Billon.
Absolument, et c'est très clair au sein du Royaume-Uni parce que l'Écosse est sortie de l'euro environ 2 semaines avant l'Angleterre et la baisse des cas est arrivée en Écosse presque pile 2 semaines avant l'Angleterre. La fin de l'année scolaire mi-juillet a aussi eu un impact, hein, les élèves devaient se tester 2 fois par semaine. Alors donc on se demande, est-ce que cette réduction serait en trompe-l'œil, moins de tests effectués égale moins de cas? Eh bien non, selon Paul Hunter, professeur à l'université d'East Anglia, car la proportion des cas par rapport au nombre de tests effectués reste stable, la raison est donc plus profonde.
And when it's down to
C'est grâce à l'immunité. Au Royaume-Uni, près de 90% des adultes ont eu une dose d'un vaccin et près de 70% les deux doses. Et nous avons aussi beaucoup de non-vaccinés qui ont encore des anticorps parce qu'ils ont eu le Covid.
Alors le professeur se méfie de l'automne, mais pour l'instant il est persuadé que cette baisse des cas est bien réelle et, dit-il, elle devrait déboucher sur une baisse des hospitalisations dès cette semaine.
Merci Marie Billon à Londres.
RTL Soir, Olivier Bois.
5 ans après la mort du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de Rouen, égorgé par deux terroristes islamistes, une cérémonie d'hommage se tenait aujourd'hui. Guy Coponnet, 87 ans, voulait être là à nouveau. Lui est un miraculé de cette attaque. Il avait été frappé également d'un coup de couteau, mais il avait simulé sa mort pour tromper les terroristes.
Il y a une chose que je ne peux pas arriver à me défaire, le chemin de croix du Vendredi Saint. C'est ce qu'a vécu Jacques. Être à genoux, debout, terrassé par des coups de couteau partout, etc. C'est le calvaire, hein, et ça, je ne peux pas arriver à m'en défaire. Je remercie le Seigneur d'être encore là, tout simplement. Je ne vais plus être là, normalement. Le Père Jacques, il a semé, et puis on en voit les effets aujourd'hui, puisque vous êtes tous là, tout ce qui a été dit. C'est un message aussi qu'il nous a laissé, que ce soit laïque ou religieuse. Il y a des choses qu'on peut supporter, mais pardonner. On plaint surtout sa famille, des ceux qui ont tué. Ils sont dans le même état que nous, on est, que la famille du père Hamel en définitive.
Témoignage recueilli à Saint-Étienne-du-Rouvray par Esteban Pinel. Il est 18h11 sur RTL. On va s'arrêter maintenant sur ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Le président Kais Saied s'est octroyé de fait les pleins pouvoirs. Il a limogé le Premier ministre et de fait le chef du Parlement issu du parti religieux Ennahda. La situation est tendue puisque des affrontements ont éclaté aujourd'hui. On en parle avec Vincent Gessière, chercheur au CNRS et spécialiste du monde arabo-musulman. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que c'est un coup d'État qui est en train de se produire en Tunisie ?
Écoutez, le mot coup d'État est un peu fort, mais en tout cas, c'est un coup constitutionnel, puisqu'il s'appuie sur un article 80 qui supposerait qu'il consulte le chef de gouvernement et le président du Parlement et qu'il fasse surveiller cette opération de décret présidentiel par une cour constitutionnelle qui n'existe pas, et il n'a pas consulté les deux personnes que j'ai citées. Donc oui, c'est un coup de force et une utilisation inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle de l'article 80 de la Constitution tunisienne, comparable en quelque sorte à l'article 16 de la Constitution française.
Le motif, c'est pour la gestion de la crise sanitaire. Le président estime qu'il y a urgence à faire quelque chose. Il fustige en clair l'inactivité du gouvernement actuel.
C'est clair qu'il y a une responsabilité du gouvernement, du Parlement, dans l'incurie totale de la politique sanitaire. On l'a vu, la Tunisie est confrontée à une véritable catastrophe sanitaire. Hein. Les hôpitaux publics ne font plus face. Mais de là à priver le gouvernement de ses pouvoirs, de là à exclure le chef de gouvernement, de là à fermer le Parlement, ça pose question, ça pose de véritables interrogations. Est-ce que c'est un coup de pression sur le gouvernement qui va durer quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que c'est un changement de régime? Et c'est un grand point d'interrogation. Est-ce que la Tunisie revient vers une forme d'autoritarisme? Ça reste, bien sûr, c'est une question qui reste en suspens.
Parce qu'on précise que le parti Ennahda est un parti qui est arrivé démocratiquement au pouvoir et élu dans les urnes.
Alors, c'est un parti qui est arrivé effectivement au pouvoir par les urnes, qui a une majorité relative, mais qui est aussi allié à un parti libéral qui s'appelle le cœur de la Tunisie, qu'on appelle un peu le parti du Berlusconi tunisien. Donc il n'est pas seul. Mais c'est vrai que le grief de la population dans les manifestations se focalise surtout sur le parti islamo-conservateur Ennahda.
Est-ce que le président a le soutien d'une majorité de l'opinion publique tunisienne face justement à l'inactivité du gouvernement et face à la crise sanitaire?
Il est clair qu'il y a un très très fort mécontentement populaire, notamment dans les classes les plus pauvres et des classes moyennes en Tunisie. Il est clair qu'il y a eu des manifestations, des protestations contre la gestion sanitaire déplorable du gouvernement, mais il n'y a pas de sondage pour dire qu'il a une majorité. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aujourd'hui, qui ont peur et qui sont en train de se demander si on n'est pas en train de revenir à une gestion, voire à un régime autoritaire très fortement personnalisé, très fortement présidentialisé.
Merci beaucoup Vincent Gessière d'avoir été l'invité d'RTL ce soir. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste donc et de la Tunisie et du monde arabo-musulman. À bientôt sur RTL. En bref, toujours, la France envoie des Canadairs en Sardaigne pour aider les autorités italiennes à tenter de maîtriser les violents incendies qui ravagent l'ouest de l'île. 7500 personnels sont déjà à pied d'œuvre et le feu a déjà détruit 20 000 hectares de forêt. Des habitations et les habitants ont dû évacuer certains secteurs. Allez, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et en voilà un beau programme pour les vacances, le soleil, la mer et donc plus si affinité. Et puis tiens, Biscarrosse dans les Landes, on rajoute un peu de lecture, ça fait pas de mal non plus. La médiathèque de la ville, figurez-vous, s'est délocalisée sur la plage, face à la mer, Juliette Chénion.
Sur cette terrasse en bois, il y a des chaises, des coussins, des transats bien à l'ombre et comme à la bibliothèque, il règne un grand silence. On n'entend que le bruit des vagues. Tous les matins, Nicole vient lire le journal.
C'est superbe. Le bain, je me douche, je me rince et je viens à la bibliothèque et je suis très bien.
Certains apportent leur propre lecture, comme Louane. D'habitude, elle n'aime pas trop ça, mais face à la mer, ça passe mieux.
Du coup, ça me motive parce que c'est au bord de la mer et ça fait vraiment exactement les vibes qu'il y a dans le livre.
Anaïs pioche dans les bacs en plastique. Elle a 6 ans et elle apprend à lire.
On voit des livres, ça donne envie de les lire. Regarde les images. Le titre, c'est
La rose
écarlate.
La rose écarlate, c'est une bande dessinée, le genre préféré de Blanche, 11 ans, cachée derrière.
Un Spirou, parce que j'aime beaucoup les BD. Il y en a plein à l'intérieur. C'est le bonheur.
Un seul inconvénient, ici, certains lecteurs avouent passer plus de temps à regarder le paysage. Bouquiner.
Reportage de Juliette Chénion, un peu de lecture donc à Biscarrosse. Il est 18h15 sur RTL, on va faire une courte pause et dans un instant l'invité d'RTL Soir est le professeur Pascal Autier, épidémiologiste à la PHM des hôpitaux de Marseille, très inquiet lui par précisément la vague épidémique et ses conséquences à l'hôpital. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
18h17 et on accueille sur RTL l'invité ce soir qui est le professeur Pascal Autier. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste, je le disais, à la PHM, assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et je vous cite ce matin dans une tribune dans la Provence, l'hôpital sera plombé avant la fin du mois d'août. Vous êtes, vous, ce soir, très pessimiste.
Je suis pas très pessimiste. J'aurais été très pessimiste lors de la première vague. Je suis objectif. Objectivement, ce à quoi on assiste, effectivement, est en lien avec l'apparition d'un nouveau variant qui, par nature, est toujours plus contagieux que le précédent. Et donc, au cours des deux dernières semaines, on voit les taux de contamination dans la population générale qui augmentent de façon très préoccupante et tout particulièrement dans notre région, mais aussi dans d'autres régions de France, ce qui rapidement se traduit par une augmentation de l'arrivée des patients à l'hôpital.
Parce que quand on lit le mot plombé, on imagine précisément que vous anticipez un niveau d'hospitalisation qu'on a connu lors des précédentes vagues. Vous n'en êtes pas encore là ?
On n'en est pas là. Ceci mis à part, les taux d'occupation sont importants. Ils sont multipliés par deux d'une semaine sur l'autre de façon régulière depuis le début du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on a ne serait-ce que dans les Bouches-du-Rhône, on a 70 patients qui sont en réanimation, plus de 400 patients qui sont dans des lits Covid. Et ça crée de la surcharge, effectivement, dans les services hospitaliers. Et surtout, ça crée des problématiques de continuité des soins pour tous. Car on a besoin aussi de ces lits et des lits de réa pour d'autres profils de patients. Moi, je suis confiant parce que nous avons un vaccin. Ce qui peut-être me navre plus, c'est de voir qu'aujourd'hui, plus de 90% des gens qui sont en réa sont des gens qui ne sont pas vaccinés.
Vous aussi, vous avez ces chiffres-là chez vous. On entend effectivement
Plus même sur les Bouches-du-Rhône.
Pour le coup, citation pour citation, vous rejoignez Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était l'invité d'RTL ce matin, et lui dit « Il n'y a pas de fatalité à ce que la vague épidémique déferle sur les hôpitaux ». Précisément, lui cite également la vaccination et un respect un peu plus strict des gestes barrières. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez faire vôtre également ? Ou est-ce que c'est trop tard pour justement fatalité. Est-ce qu'elle arrive toute seule cette vague.
La vague épidémique, elle est là. Donc c'est une réalité. Après, je pense qu'on a la capacité très probablement de pouvoir la maîtriser et de pouvoir y résister. Elle va de toute façon, cette vague, avoir des conséquences effectivement sur le secteur du soin, de consommation, de personnel, de lits. C'est une réalité. Après, notre chance est de disposer d'un vaccin. Le vaccin, j'entends qu'on puisse dire le vaccin, ça a des effets indésirables. J'aimerais que l'on retienne aussi que le vaccin, ça peut avoir des effets désirables. C'est quand même le seul moyen de casser les chaînes de contamination. C'est le seul moyen aujourd'hui d'éviter des formes graves. C'est le seul moyen pour nous garantir la continuité des soins. Et je pense que c'est une grande chance que nous avons par rapport à la première vague au printemps 2020.
Est-ce qu'il y a eu un relâchement dans les gestes barrières ? Là encore, je disais dans votre tribune ce matin que vous trouvez que vous voyez les mêmes scènes que l'été dernier. J'avais l'impression de comprendre cela à vous lire. C'est-à-dire les bars, les discothèques, les rooftops à Marseille et peut-être un petit relâchement. Est-ce que c'est une alerte selon vous ?
Ah bah les comportements sont identiques. Il était peu probable que ça ne soit pas comme ça. Voilà. Donc effectivement, alors moi je suis effectivement dans les Bouches-du-Rhône. Il y a la plage, etc. Il suffit de se promener près des plages, près des restaurants pour voir qu'il y a beaucoup de gens en vacances, pas en vacances, dont on peut comprendre qu'ils aient envie de se détendre, d'oublier, etc. Et oui, les masques ne sont pas présents. La proximité est importante.
Il faut refermer les discothèques, par exemple, si je vous pose la question très simplement.
Il faut surtout se vacciner. Mais si on ne monte pas dans les taux de vaccination, inévitablement, les discothèques, il conviendra de les refermer. De la même façon, il conviendra de diminuer les taux d'exposition dans les lieux de restauration et, à moyen terme, de les refermer. On reconnaîtra les mêmes situations.
Vous êtes épidémiologiste. Est-ce que vous aussi, vous craignez, comme le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qu'il y ait forcément un nouveau variant à l'automne et qu'on n'en ait pas fini encore avec, en tout cas, cette version Delta, qu'elle ne soit pas la dernière ?
C'est un coronavirus. Ce sont des virus qui mutent en permanence, qui s'adaptent, c'est loin d'être déraisonnable de penser que effectivement il y aura après le variant Delta un autre variant qui sera par nature plus agressif que le précédent, qui essaiera de se faire sa place. On peut aussi parallèlement espérer que le vaccin qui soit développé permette aussi de protéger contre ce variant. Vous citiez préalablement les données qui sont actuellement constatées en Grande-Bretagne avec des taux de diffusion qui sont très importants du variant et pour autant des nombres d'hospitalisations qui diminuent. Et l'explication quand même la plus probable, eh bien, la couverture vaccinale complète d'une très large partie de la population britannique.
Pour le moment, à chaque fois que le virus a eu des variants, on remarque qu'il est plus contagieux. Est-ce qu'il peut aussi être plus grave au fur et à mesure de ses reproductions et de ses modifications ?
Il est de toute façon quand il est mutant, il prend la place de l'autre, donc il est toujours plus contagieux systématiquement. Ouais. Il n'est pas pour autant nécessairement plus grave. En l'occurrence sur le variant Delta, on commence à avoir un peu de recul. Manifestement, oui, ça donne des formes qui sont plus graves.
Merci beaucoup. Merci professeur Pascal Autier d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à la PHM Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. Merci, à bientôt sur RTL. On va faire une courte pause et on est déjà avec Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
À la télé ce soir, dans un instant avec vous, à tout de suite.
Ben avec plaisir.
À bientôt.
Olivier Bois, RTL. RTL Soir, Olivier Bois.
Et à 18h26, on est avec vous Isabelle Morini-Bosque. Rebonsoir donc.
Rebonsoir.
D'abord, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur les audiences du week-end, Isabelle ?
Bien évidemment. Jeux Olympiques oblige, on va donner l'audience de la cérémonie d'ouverture suivie vendredi sur la 2, donc par 3 900 000 téléspectateurs de moyenne, pas mal du tout. Et l'audience de la victoire de Romain Canon, suivie par 2 700 000 admirateurs. C'était Canon et même donc Canon. Alors le chaud et froid du week-end, il est pour TF1. Chaud vendredi avec la bonne audience du grand quiz permis de conduire, 3 500 000 curieux. Et très froid samedi avec l'échec du divertissement, les touristes sauvetage en mer, 1 800 000, devancé par Mongeville, qui était pourtant une rediffusion, et par Hawaii 5-0. C'est dommage pour des apprentis sauveteurs en mer de boire le bouillon.
Et par quoi commence-t-on ce soir, Isabelle ?
Par une petite révision. Je signale en effet aux aficionados de Kaamelott que Salto propose dès aujourd'hui l'intégrale de ce format court décliné en 6 saisons et 458 épisodes. Vous en avez vu ?
Oui, j'en ai vu quelques-uns.
Consacré
oui.
Au roi Arthur et à ses chevaliers. Si la table est ronde, eux sont complètement tordus et on adore ça. Alors je repasse l'un de mes passages préférés, hein. je vous les raccourcis un petit peu. Quand Perceval l'abruti fait remarquer qu'il est chevalier et qu'il devrait être considéré comme tel au lieu de subir des quolibets. Sauf que voilà, dit par lui, c'est pas exactement ça.
J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel.
Comment ?
Comment ?
Vous considérez en tant que... J'ai pas compris.
Bah, me considérer en tant que tel. Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés, quand même. C'est pas normal.
Victime des... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu, ça ? Colifiché, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Colifiché, c'est quelqu'un qui...
Non, je suis désolé, pas du tout.
Quelqu'un qui dit du mal d'une personne ?
Non, mais non, c'est pas ça.
Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis.
Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Moi, ça me fait toujours autant rire, je suis désolé. Déjà, près de 840 000 entrées en salle pour le film d'Alexandre Astier, Kaamelott, qui prend donc la suite de la 6e saison. Parmi les redifs du jour, plusieurs comédies notables. Sur C8, Mary, une délicieuse gamine surdouée, divise involontairement sa famille. Sur la 3, la soupe aux choux, faut-il présenter un extraterrestre, Jacques Villeray, effectivement extra, débarque chez deux retraités alcooliques, Louis de Funès, qui était très malade à l'époque, et Jean Carmet. Et si vous préférez l'inédit, notez, alors moi j'avoue que ça m'a ravi, notez Baywatch sur M6, vous savez, la version film de la célèbre série télé Alerte à Malibu, avec deux héros, Matt et Mitch, qui vont en bateau. Et ils jouent, honnêtement, il faut être franc, hein, ils jouent à celui qui a la plus grosse bouée,
bien
évidemment.
Sûr,
mon instinct me dit qu'il se passe un truc grave là-bas. Et mes couilles me disent d'aller voir.
Très mauvaise idée, Mitch. On est maître nageur, nous.
Moi, mes couilles, elles disent...
Si on l'a joué, relax.
Moi, mes couilles, elles disent ferme ta gueule et allons voir ce qu'il y a.
Mais il y a beaucoup de gros mots dans votre chronique ce soir, Isabelle.
Vous voulez en trouver un qui en avait moins, mais...
C'est une cata, ce mec.
Je suis Matt Brody.
Et j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre.
C'est un des nageurs les plus doués du monde. C'est comme si un humain avait baisé avec un jet ski. Ce qui est impossible, bien sûr, mais ça,
voilà.
C'est trop cool.
Vous voulez trouver soft ? J'ai pas beaucoup. C'est
bon,
un peu compliqué.
Ça sera pas forcément pour les enfants, alors.
Mais alors, je vais être franche. Si. C'est très grand public, même s'il y a les Mitch de Mitch. Alors, moi, je pensais détester. Or, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce film plein de second degré et de bikini. C'est d'ailleurs amusant de voir à quel point ce long métrage est fait avec peu de tissu.
Et comme c'est lundi, je suppose qu'il y a un polar télé quelque part également.
Vous supposez bien, c'est Motive sur la 2. Alors Motive, ça veut dire mobile du crime dans un polar. Et alors comme ils avaient peur qu'on ne comprenne pas, ils ont tout mis dans le titre, Motive, le mobile du crime. Comme dans Columbo, on sait dès les premières images qui est l'assassin, qui est la victime, sans qu'on le voit jamais. C'est-à-dire qu'il y a un petit mot inscrit sur l'écran qui est arrêté, victime, assassin. Et tout commence donc par là ce soir, le victime et la... Pardon. J'en vous remets tout dans l'ordre. Ce soir, la victime est l'assistante d'un célèbre photographe qui est évidemment suspect.
Eux, ce sont Eric Sharp et son avocat. Eric est photographe.
Plus maligne.
Lui appartient. La victime, Nick Carey, 21 ans, son assistante. D'après l'avocat, M. Sharp s'est réveillé ce matin avec la victime allongée près de lui dans le lit. Elle avait été poignardée. Il ignore comment elle a atterri là.
Je ne vois pas de sang sur lui.
Il faut dire que M. Sharp a pris une douche avant notre arrivée. Tu veux entendre la meilleure ? L'avocat était là avant les premiers policiers. Et l'avocat a appelé les secours 15 minutes plus tard.
Ouais, ce qui lui a laissé largement le temps de faire une bonne toilette.
Voilà. Dans la réalité, c'est un tout petit peu moins foutage de gueule que le ton a l'air de le suggérer, là. Mais c'est vraiment... La ligne policière est vraiment très bien faite. Et si vous êtes fou d'aviation, évidemment, vous aimerez sur France 5, Clark Butson, un pilote australien survolant le bush depuis 40 ans pour aider médecins, agriculteurs, aborigènes. C'est une activité qu'il fait doublement planer. C'est les avions du bout du monde. Et honnêtement, c'est très bien, même si je n'aime pas les avions.
Parfait. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. À demain, même heure, pour ce soir à la télé.
Même endroit, même punition.
18h31 sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et l'essentiel de l'actualité ce soir, d'abord le cap des 40 millions de primo-vaccinés qui est franchi en France. C'est le président de la République qui l'a annoncé sur Twitter en marge de son déplacement en Polynésie. Il y a eu 4 millions d'injections en 15 jours, du jamais vu. Près de 60% désormais des Français ont reçu une première dose et près de la moitié de la population a un schéma complet de protection. Le Conseil constitutionnel tranchera le 5 août prochain sur la loi relative aux mesures anti-Covid, adoptée très tôt ce matin au bout d'un marathon parlementaire d'une semaine. Le gouvernement a dû faire quelques concessions. Le pass sanitaire s'appliquera à partir de début août dans les bars, restaurants, y compris en terrasse, mais il y aura plus de progressivité dans les sanctions en cas de contrôle. Ce sont les préfets localement, par ailleurs, qui décideront s'il est nécessaire ou pas de soumettre tel ou tel centre commercial au pass sanitaire. Et puis, pour les personnels qui ne voudront pas se soumettre au pass, y compris les personnels soignants, on ne parle plus de licenciement, mais de possible suspension de salaire ou de congés sans solde. Sur les personnels soignants, d'ailleurs, je vous rappelle la règle, hein, ils devront avoir fait au moins une première injection au 15 septembre prochain. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a participé à la cérémonie d'hommage au père Hamel, assassiné il y a tout juste 5 ans par 2 terroristes islamistes à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Et puis à Tokyo, les résultats du jour, donc aux Jeux Olympiques, 2 médailles françaises, l'argent en judo, moins de 57 kilos pour Sarah Léonie Sizik, et le bronze en escrime au sabre pour Manon Brunet, ce qui nous fait donc un total de 5 médailles, une en or, 2 en argent et 2 en bronze. On y revient dans 2 minutes, dans On refait les Jeux jusqu'à 19h avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. La météo, rebonsoir Claire Delorme.
Rebonsoir Olivier.
Alors grisaille et pluie demain au programme.
Oui, surtout pour la moitié nord, on a une nouvelle perturbation qui va onduler toute la journée des Pays de la Loire en remontant vers les frontières du Benelux. Donc ça sera un temps bien couvert avec des fréquentes averses qui pourront d'ailleurs tourner à l'orage dans le courant de la journée près des Hauts-de-France. Sinon partout ailleurs, c'est quand même un temps beaucoup plus sec. Il y aura également de nombreux passages nuageux mais aussi des belles éclaircies qui seront davantage présentes en direction de la Méditerranée. Petit bémol en revanche, hein, près des Pyrénées où là aussi l'instabilité sera de mise. Et puis au niveau de la Corse, c'est pareil, au niveau du relief, on n'est pas à l'abri de quelques ondées. Pour les températures, il faudra compter entre 13 et 16 degrés dans l'ensemble, 18-22 degrés vers les rives de la Méditerranée dans l'après-midi. On est en dessous des normales de saison de 1 à 2 degrés sur l'ensemble des régions, donc 18 à 24 degrés du nord au sud-ouest et de 28 à tout de même 33 degrés dans le sud-est.
Et est-ce qu'on peut espérer un peu de soleil dans les prochains jours?
Alors j'aimerais vous dire oui, mais en fait pas franchement.
Mais non.
Ça sera surtout un grand partage de nuages, bon quand même quelques éclaircies, hein, je dois vous l'avouer, mais aussi des ondées. Et donc ça sera sur l'ensemble des régions pendant toute la semaine. La meilleure journée de la semaine, ça restera jeudi où ça sera quand même beaucoup plus sec. Par contre, la Méditerranée, quand elle reste en marge des pluies, le soleil va quand même dominer, mais les températures resteront quand même à peine de saison, hein, pour toute cette semaine.
Merci beaucoup Claire Delorme, il est 18h34 sur RTL. Dans un instant, on refait les jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Juste après une petite pause, à tout de suite sur RTL.